Les séminaires du Collège de France.
J'ai le plaisir de vous présenter Dominique Stoppa-Lyonnais. Elle a été chef de clinique très longtemps à l'Institut Curie. Vous savez, un institut qui s'occupe du cancer internationalement reconnu. Et elle est professeure de génétique médicale et expert mondial dans le cancer de sein. En particulier, il va nous parler de ça et je la remercie énormément d'être venue.
Merci beaucoup, merci surtout Louis de ton invitation et puis merci à vous de votre présence. Et donc je vais essayer de relever le défi que tu m'as lancé de parler de la génétique des cancers du sein avec un titre qui est assez focus, mais je vais m'élargir, la variance va être un peu large.
T'as pas besoin.
Oui, bien sûr. Je préfère parce que... Oui, j'ai un micro. J'arrive pas à faire deux choses en même temps. Donc, je vais faire quelque chose d'assez large autour de la génétique des cancers du sein pour ensuite, effectivement, introduire la variabilité, la pénétrance. Et ce sera la fin du topo. Mais avant, je voudrais vous... faire une introduction un peu générale sur le cancer du sein, sur la génétique, bien sûr, du cancer du sein, et je parlerai beaucoup des gènes BRCA1 et BRCA2. Mais d'abord, cette première diapositive, pour vous dire que le cancer du sein, c'est une préoccupation mondiale, dans la plupart des pays, en particulier occidentaux, puisque l'incidence, le taux annuel moyen de cancer, est de 1 pour 1000 dans les pays occidentaux, donc ce qui est en violet, jusqu'à 1 pour 10 000 dans d'autres pays. Ces diapositives, pour vous redonner, puis ce sera la seule, quelques éléments quantitatifs. En rouge, c'est les courbes de morbidité, d'incidence de la maladie. En bleu, de mortalité. Le premier graphe, c'est l'incidence des cancers du sein donc chez les femmes par classe d'âge. Et donc, vous voyez qu'avant 60 ans, le risque est déjà assez élevé. Il est plus important, bien sûr, entre 60 et 75 ans. Et puis même après 75 ans, il reste en plateau, il reste assez élevé. C'est-à-dire qu'il y a encore des diagnostics qui sont faits. L'autre diagramme vous donne le risque cumulé de cancer du sein à 74 ans en fonction de l'année de naissance, ou ce qu'on appelle un effet cohorte pour des femmes nées entre 1920 à 1950. Et vous voyez qu'en termes de morbidité, d'incidence de la maladie, eh bien, pour les femmes nées en 1920, le risque à 74 ans était de 6%, quand pour celles qui sont nées en 1950, donc qui ont 75 ans aujourd'hui, eh bien, le risque est de 12%. Donc le risque a doublé au cours de ces il a doublé au cours de ces 30 dernières années. En revanche, la mortalité par cancer du sein, la courbe bleue, reste très stable, voire diminue et indique l'importance des traitements. Mais allons quelques siècles en arrière, et c'est une communication de l'Académie royale de chirurgie de 1757 qui rapportait, c'était un cas clinique, et c'est un chirurgien qui rapportait le cas d'une religieuse, je lis, qui avait à la mamelle droite un cancer pour lequel elle craignait l'extirpation plus que la mort, parce qu'une grand-mère et un grand-oncle maternel étaient morts de pareille maladie. Elle concluait que cette maladie était héréditaire et que son sang était vicié par un levain cancéreux naturel dans la famille. Et qu'ainsi, l'opération ne la guérirait pas, donc elle partait vaincue d'avance, ce qui était une erreur. Et c'est d'ailleurs toute la problématique de la médecine prédictive d'éviter ce genre d'histoire répétée. Et puis une autre lettre qui est très émouvante et que Françoise Madja, qui s'occupait des archives médicales de l'Institut Curie, m'a transmise, c'était la lettre d'un militaire qui était en poste à Meknès, au Maroc, en 1951, et qui écrivait au docteur Beau, médecin de l'Institut Curie, « Devant ces morts successives causées par la même terrible maladie, je finis par me demander si ce fléau n'est pas héréditaire, ou tout au moins si la branche maternelle de ma fille n'offrait pas des prédispositions. » Ayant depuis le 5 février 1949 une fille exacte reproduction de ma mère, j'en arrive à craindre pour elle comment dépister cette affreuse maladie et la prévenir. Cette lettre est tout à fait remarquable parce qu'elle dit de façon très précise la préoccupation des familles et les questions qui sont posées. Comment prévenir, comment dépister, comment empêcher la reproduction de l'histoire familiale. Et j'ai la réponse, je montre rarement là, je crois que je n'ai jamais montré la réponse du docteur Beau, mais voilà, j'ai retrouvé donc dans le dossier qui disait, qui répondait, je crois que c'est par une simple coïncidence que vous avez observé plusieurs cas de cancer dans votre famille. Il n'y a pas lieu de vous inquiéter en ce qui concerne l'avenir de votre petite fille, car le cancer n'est pas une maladie héréditaire. Je ne lui jetterai pas la pierre, ce d'autant que dans ce cas-là, il s'agissait d'un cancer du col utérin. Et on sait qu'il n'y a pas beaucoup de place pour l'hérédité dans le cancer du col utérin. Et puis, je dirais que le cancer n'est pas une maladie héréditaire. C'est vrai que le plus souvent, les cancers ne sont pas, enfin, ou du moins, la prédisposition au cancer n'est pas héritée. Il n'y a pas de substratum génétique constitutionnel à l'apparition d'un cancer. Mais dans quelques cas, oui, et c'est ce que nous allons voir. Et je voudrais revenir, je fais appel aux anciens et à Paul Broca, qui, dans son traité des tumeurs, à propos des tumeurs en général, disait « On trouve dans la science un grand nombre d'observations de cancer paraissant héréditaires. Personne n'a songé à récuser l'authenticité de ces faits, mais le cancer étant une maladie très fréquente, le calcul des probabilités démontre qu'il peut y avoir, par pure coïncidence, plus d'un cancéreux dans une seule famille, sans que pour cela il y ait lieu d'en accuser l'hérédité. » Et puis, ensuite, il citait un certain Walsh qui, en fait, disait, introduisait la notion de risque relatif. Il pense que d'après les faits connus, l'hérédité du cancer est probable, mais qu'avant de considérer comme démontré, il faut attendre des statistiques régulières suffisamment étendues. Il ne suffirait pas, en effet, de compter combien de cancéreux sur 100 ont eu des cancéreuses dans leur famille. Il faudrait démontrer que ce chiffre est supérieur à celui qu'on pourrait attendre d'une coïncidence pure et simple. Je trouve que c'est formidable, très expliqué très simplement, et je voudrais l'illustrer avec ces deux situations. Le rétinoblastome, qui est une tumeur de la rétine de l'enfant, du petit enfant, qui survient le plus souvent dans les deux premières années de vie. Ici, donc, un arbre avec un homme, un père, qui a été atteint d'un rétinoblastome dans l'enfant, dont il a été guéri à l'âge de 1 an, et puis qui a une fille qui a un rétinoblastome à l'âge de 4 mois. Et probablement, le diagnostic-là a été fait plus tôt parce qu'on faisait une surveillance du fond d'œil de l'enfant. Et en fait, donc le risque de rétinoblastome, c'est à peu près un enfant sur 15 000. Et si on retient qu'il y a à peu près 800 000, il y avait 800 000 naissances par an en France, aujourd'hui nous sommes à 650 000, eh bien on s'attend à 50 nouveaux cas de rétinoblastome. Effectivement, c'est ce qui est observé. Le 1 sur 15 000 est la conséquence de ce qui est observé. Eh bien, on s'attendrait à ce qu'il y ait un cas familial fortuit tous les 300 ans, puisqu'il faudrait faire donc 15 000 enfants divisés par 50, et bien ça fait 300. Et en fait, on observait 5 cas familiaux par an, c'est-à-dire 1500 fois plus. Donc là, l'hérédité du rétinoblastome, on peut considérer sur cette observation, elle est, dans certains cas, tout du moins, elle est démontrée. Il y a un excès de forme familiale. La discussion, la problématique n'est pas du tout la même pour le cancer du sein, parce que si on retient un risque cumulé de cancer du sein à l'âge de 70 ans de 9%, eh bien on s'attend, du seul fait de cette fréquence élevée, à ce qu'il y ait des histoires familiales fortuites. Et donc c'est ce que j'ai tenté d'illustrer sur cette situation. On prend une structure familiale type, il y a au moins 5 femmes qui ont atteint l'âge de 70 ans, parce que donc il y a une femme atteinte qui a un cancer du sein à 70 ans, puis elle a au moins 5 apparentés de premier ou second degré qui ont atteint l'âge de 70 ans. Et bien, si on retient que le risque cumulé à 70 ans est de 9%, et bien dans 36% des cas, on sera dans une situation familiale comme à gauche, avec au moins une apparentée, en l'occurrence ici la grand-mère paternelle, qui a été atteinte de cancer du sein avant l'âge de 70 ans. Et donc c'est une histoire familiale fortuite. Alors, avant d'aller plus, je dirais, m'enfoncer dans la génétique des cancers du sein, je voudrais prendre un peu plus de recul pour vous faire comprendre les choses et vous présenter deux diapos sur le rétinoblastome et puis deux, trois diapos sur la génétique des cancers, sur la tumorigénèse. D'abord, La prédisposition au rétinoblastome, c'est le paradigme des prédispositions au cancer. Et c'est le gène qu'on a appelé, du rétinoblastome qu'on a appelé RB1 pour rétinoblastome 1, parce qu'on pensait en trouver d'autres. Le 1, il n'y en a pas d'autres. Eh bien, a été le premier gène de prédisposition qui a été identifié. Mais tout a commencé d'abord par un épidémiologiste. Et vous voyez, les mathématiques en génétique sont extrêmement importantes. Knudson, qui en 71 avait, devant l'observation de formes familiales de cancer, de rétinoblastome, et ayant compris que c'était une transmission dominante de l'un des deux parents à un enfant, et ayant vu qu'en moyenne, le plus souvent, l'âge diagnostic d'une première atteinte chez un enfant était beaucoup plus jeune que dans les cas non familiaux. Et il a proposé l'hypothèse suivante, c'est que deux mutations d'un gène qu'on connaît, enfin deux mutations génétiques étaient nécessaires, pas suffisantes, mais nécessaires pour que se développe, je dirais, puisse se développer un rétinoblastome. Et il proposait qu'en absence de prédisposition, les deux mutations étaient en fait acquises en post-natal au cours de la vie, et qu'en cas de prédisposition, l'une était héritée et l'autre acquise. Et donc c'est ce que je montre sur ces deux schémas que j'ai empruntés à Catherine Bonaïti. Les formes sans prédisposition, donc c'est les deux yeux de l'enfant et les ronds verts sont autant de neuroblastes de la rétine. Eh bien, il n'y a pas de prédisposition du seul fait des erreurs de réplication de l'ADN, une mutation dans une des cellules, et puis par hasard, s'il y a une deuxième mutation, eh bien, à ce moment-là, la cellule sera en route dans le rétinoblastome. En revanche, quand il y a prédisposition, parce qu'il y a l'altération et constitutionnelle, a pu être héritée d'un des deux parents, ou le fait d'un accident génétique survenu dans les gamètes de l'un des deux parents, voire encore une altération post-zygotique, très tôt après la conception, eh bien l'ensemble des cellules des deux rétines, il y aura cette altération génétique. Et à ce moment-là, il y aura quasi immanquablement, dans plusieurs cellules, un deuxième événement de mutation du seul fait des erreurs de réplication de l'ADN, et donc plusieurs cellules seront en route vers le rétinoblastome. Et puis, je reviens à donc là, Cummings, qui est un biologiste cellulaire, un généticien, 2 ans plus tard, a proposé que, en fait, les deux altérations sont les deux copies ou allèles d'un même gène. Et puis, très vite, et dernière diapositive sur le rétinoblastome, d'abord, en 63, sans qu'on connaisse pas grand-chose, on n'avait pas identifié les gènes, vous avez vu que le karyotype humain venait d'être à peu près cerné, on avait quand même la structure de l'ADN, mais Penrose, qui est un généticien, et Stallard, qui est un ophtalmo, avaient observé qu'il y avait des enfants, de rares situations, qui présentaient un retard mental et puis un rétinoblastome bilatéral survenant à un âge très jeune. Eh bien, ils ont fait une étude cytogénétique et ils ont vu qu'il y avait une délétion dans un des chromosomes qui s'est avéré le chromosome 13. À ce moment-là, il n'y avait pas ce qu'on appelle le bending des chromosomes. On les classait par groupe en fonction de leur tâche, de leur taille. Et donc, ils avaient remarqué qu'il y avait une délétion partielle assez grande au niveau du futur chromosome 13. Et puis Webster-Cavigny a montré que au niveau tumoral, a pu montrer là que en fait ces délétions étaient assez localisées sur le bras long du chromosome 13 en 13-14. Et puis Stephen Friend, qui est un chirurgien, a fait ce qu'on appelle une cartographie délétionnelle dans la tumeur, c'est-à-dire, et c'est une espèce de truc éclaté, représente la tumeur. Et donc vous savez que nous avons toutes des paires de chromosomes, donc chromosome 13, eh bien, il a remarqué qu'au niveau tumoral, il y avait, en regard du chromosome qui pouvait être commun ici à une mère et un fils atteint, eh bien, en regard, il y avait une délétion de l'autre chromosome qui pouvait avoir une taille différente selon la tumeur. Et souvent, ces délétions, on les met en évidence indirectement par ce qu'on appelle une perte d'hétérozygosie. Eh bien, Stephen Friend a fait une cartographie délétionnelle. Il a recherché la plus petite région commune de délétion, et avec l'idée que le gène qui prédispose au rétinoblastome est dans cette région. Et là, je suis en train de vous expliquer ce qu'on appelle, c'est le clonage, je dirais le clonage positionnel. Et c'est ainsi que le gène RB1 a été identifié comme étant toujours le gène porteur d'une altération, d'une mutation différente le plus souvent d'une famille à l'autre, et qui est, et finalement, la prédisposition est transmise, le trait génétique est transmis selon le mode dominant, mais en revanche, l'impact tumoral, il est récessif, c'est-à-dire qu'il y a une inactivation du deuxième allèle. Et en fait, dans l'essentiel des gènes de prédisposition au cancer, ont ce mode de transmission dominant avec une expression récessive au niveau tumoral. Deuxième petite assise pour présenter ensuite la génétique des cancers du sein, je voudrais rappeler que les cancers donc, suivent un processus clonal qui est lié à l'accumulation dans une cellule, et ces cellules filles, d'altérations génétiques ou épigénétiques. Pour moi, l'épigénétique, c'est de la génétique. Donc, ces altérations confèrent un avantage sélectif. Et vous voyez sur ce schéma que j'ai emprunté à Marc-Henri Stern, vous voyez en haut, il y a une cellule qui a deux cellules filles et puis il y a une cellule qui est barrée. Pourquoi ? Parce que, en fait, un cancer, c'est un processus darwinien de sélection. Donc, il y a un certain nombre d'altérations génétiques qui surviennent, mais qui le plus souvent rendent la cellule. Quand il n'y a pas de survie possible et la cellule est éliminée. Mais il y a certaines altérations qui confèrent un avantage sélectif et à ce moment-là, petit à petit, il y a une accumulation d'altérations donc dans les différentes cellules. Et donc, il faut avoir en tête que les cancers sont des maladies génétiques de la cellule avec des tas de chemins différents qui conduisent au processus tumoral. Et c'est d'ailleurs une grande partie des recherches en cancérologie qui portent sur l'identification des gènes et des voies cellulaires altérées donc, au cours du processus tumoral. Je vous recommande cet article de revue qui est très bien fait, qui fait une synthèse de la situation. Et l'essentiel des gènes, je dirais, des processus tumoraux ont été identifiés, probablement près de 600 gènes, ce qu'on appelle drivers. Par contre, on n'a pas identifié toutes les modalités d'inactivation des gènes drivers. Ça ne passe pas par des mutations proprement dites de la partie codante de ces gènes. Il y a un grand nombre de modifications structurales, mais aussi de micro-ARN qui vont modifier l'expression de ces gènes. Et donc, il y a encore beaucoup de travail à faire. Et finalement, ayons aussi en tête, je vous ai dit que le cancer est une maladie génétique de la cellule, mais quels sont les événements de mutation comment surviennent-ils ? Eh bien, il y a des altérations qui sont acquises au cours du processus tumoral, on parlera d'altérations somatiques. Elles surviennent tout simplement du fait des erreurs de réplication de l'ADN, 6 milliards de paires de bases à répliquer lors de chaque division cellulaire, et sachant que nous avons entre 10 puissance 13 et 10 puissance 14 cellules, donc il y a des erreurs, même avec des ADN polymérases qui sont très performantes, même avec des voies de réparation qui sont également très, très, très performantes, il y a immanquablement des erreurs dans nos systèmes biologiques. Et puis plus nous vieillissons, plus le nombre moyen de mitose pour une espérance de vie de 80 ans est élevé, est estimé à 10 puissance 16, donc là encore, les erreurs s'accumulent. Et puis, nous nous exposons à des agents mutagènes, soit l'UV, le tabac, l'environnement, les perturbateurs endocriniens, etc. Et donc tout ça, ça fait le lit des altérations somatiques. Et puis il peut y avoir des altérations constitutionnelles qui sont, je dis, souvent héritées. Pourquoi souvent héritées et pas toujours ? Parce qu'il peut y avoir des événements de mutations, de néomutations qui surviennent dans les gamètes de l'un des deux parents ou encore très tôt après la conception, et un certain nombre de ces altérations, si on les retrouve dans les gamètes de l'individu, vont être transmissibles à la génération suivante. Et donc là, il y a deux grands volets dans ces prédispositions. Il y a des gènes du processus tumoral, c'est-à-dire qu'il y a une étape qui est déjà franchie constitutionnellement dans l'ensemble des cellules nécessaires à la transformation, C'est typiquement ce qui se passe dans le rétinoblastome. Le gène RB1, je ne vous ai pas parlé de la fonction de la protéine, je ne voudrais pas prendre trop de temps, mais c'est un élément essentiel, ça a un rôle dans la différenciation cellulaire, donc dans la transformation tumorale. Et puis, il y a des gènes de réparation de l'ADN, on parlera de gènes caretaker, et on va voir BRCA1, BRCA2, mais aussi des gènes de prédisposition au cancer du côlon, comme ce qu'on appelle les gènes du mismatch repair, sont des gènes de réparation. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ben, une personne qui a une anomalie dans un gène de réparation de l'ADN, elle va dans la cellule qui pourrait devenir tumorale, il va y avoir une accumulation d'altérations plus rapide que le simple fait des erreurs de polymérase. Et donc, il y a par là un risque plus élevé de cancer. Maintenant, arrivons enfin à notre sujet du jour. Finalement, la question que nous pose Broca et qu'on se pose, c'est quoi le risque relatif de cancer? Est-ce qu'il est supérieur pour une femme qui a une apparenté qui a été atteinte de cancer du sein? Est-ce qu'il est supérieur ou pas à celui de la population générale? Il ne suffirait pas de compter combien de cancéreux sur 100 ont eu des cancéreux dans leur famille. Il faudrait démontrer que ce chiffre est supérieur à celui qu'on pourrait attendre d'une coïncidence pure et simple. Beaucoup d'études ont été faites et on sait depuis longtemps que pour une femme dont la mère a eu un cancer du sein, son risque de cancer du sein est multiplié par 1,8 par rapport à l'ensemble des femmes de la population générale. Et là, je cite une méta-analyse extrêmement importante qui a porté sur plus de 20 000 femmes. Et puis, si cette femme a non seulement une mère, mais aussi sa sœur atteinte de cancer du sein, le risque est presque de 3. Et si elle a une mère et deux sœurs, eh bien son risque relatif est de 4. Juste au passage, 4, le risque relatif de 4, si on retient que le risque cumulé au cours de la vie est de l'ordre de 10%, eh bien on arrive à 40%. On est même sans connaître grand-chose, à 40%. C'est comme si on était dans une situation de prédisposition transmission dominante, c'est-à-dire transmission dominante, il y a un risque sur deux d'avoir un facteur génétique, un gène altéré, et si la pénétrance, donc un risque sur deux, et si la pénétrance est très élevée, admettons qu'elle soit de 80%, et bien comme c'est un risque sur deux, là finalement le risque tumoral est de 40%. Donc même la simple observation de ces situations, le risque relatif chez une femme qui a 3 apparentés au premier degré atteint, nous dit que on s'oriente vers la transmission dominante. Et effectivement, il y a eu des études de ségrégation qui ont suivi le trait génétique prédisposition au cancer du sein, faisant l'hypothèse qu'il y a un trait génétique. Il y a cette étude fait référence, c'est l'analyse de l'histoire familiale de 4000 femmes atteintes de cancer du sein avant l'âge de 60 ans, relativement jeune, et 4000 femmes indemnes, mais bien sûr à parier sur l'âge et l'origine géographique. Et puis, donc on a regardé s'il y avait plus de cas, et on l'a observé effectivement, d'autres femmes atteintes dans le groupe des femmes atteintes de cancer du sein versus le groupe témoin. Et puis on a regardé quel était le meilleur modèle qui collait avec la distribution donc de surplus des cas chez les apparentés. Et le modèle, c'est un modèle qui est dominant, donc bien sûr une branche parentale autant maternelle que paternelle, et combien de fois j'ai entendu dire « Oh ben si c'est du côté paternel, c'est pas de problème, on est quasi protégé », gros erreur majeure, avec une confusion de la transmission du trait génétique et celle de son expression, donc l'une est indépendante du sexe et pas l'autre. Et puis, les paramètres du modèle, eh bien c'est la fréquence la fréquence des porteurs dans le groupe des cas versus la fréquence des porteurs dans la population générale. Il est estimé à 5% dans le cas des cancers du sein et puis 0,5% dans la population générale. Et dans le modèle, il n'y avait pas d'introduction donc de néomutation. Et juste par exemple, pour le rétinoblastome, le taux de mutation, de néomutation est énorme. Il est de l'ordre de 80-90%. Donc la problématique des néomutations est très différente d'une situation de prédisposition, à l'autre. Et donc ce graphe indique le risque de cancer par tranche d'âge de 10 ans, et donc chez les prédisposés en rouge. Et donc vous voyez aussi que le risque est extrêmement important, dans ce modèle de ségrégation avant l'âge de 50 ans, donc c'est des âges de diagnostic jeunes. Donc, l'identification des premiers gènes de prédisposition au cancer du sein, ben c'était il y a 30 ans. On a fêté l'année dernière l'identification de BRCA1 et cette année, c'est celle de BRCA2. Eh bien, l'identification s'est faite par des études de liaison génétique, contribution et la contribution a été essentielle de familles à cas multiples de cancer du sein, dont la répartition des cas pouvait coller avec un trait dominant avec pénétrance élevée. Puis Marie-Claire King a localisé un premier donc, gène de prédisposition. Et puis, dans le cadre d'un effort international, le Breast Cancer Linkage Consortium, la position du gène a été confirmée, précisée. Et puis, au terme d'une compétition internationale très importante, Myriad Genetics a identifié BRCA1 comme étant le gène qui était dans la situation d'intérêt et qui était toujours le siège de mutation chez les femmes atteintes de cancer du sein et s'inscrivant dans une famille liée à BRCA1. Et puis très vite, on s'est aperçu que BRCA1 ne rendait pas compte de l'ensemble des familles à cas multiples et un deuxième gène a été identifié, donc BRCA2, très rapidement, là par le groupe de Mike Stratton en Grande-Bretagne. Et ce qui est intéressant, c'est que ces approches qui ont révolutionné la génétique médicale, ces approches par liaison génétique, on parlera encore de clonage positionnel, eh bien, c'est des approches agnostiques. On ne sait pas du tout, il n'y avait pas d'hypothèse sur la fonction du gène identifié. Quelques diapositives pour vous dire aussi les difficultés qu'on a à étudier ce gène. Il y a une perte de la... En fait, ce que je veux vous dire ici, c'est qu'il y a, comme dans le rétinoblastome, on est une transmission dominante avec une expression récessive au niveau cellulaire, en ce sens qu'il y a une perte de l'allèle qui est non liée à la maladie. Et donc le second allèle, il est inactivé de façon diverse. Ça peut être par effectivement une délétion. Il y a un gros morceau qui manque de ce qu'on appelle l'allèle sauvage, mis en évidence par perte d'hétérozygosie. Ça peut être aussi une mutation ponctuelle, ou ça peut être encore une méthylation du promoteur, notamment c'est vrai pour BRCA1, pas vrai pour BRCA2, qui ne se laisse pas méthyler comme cela. Je veux dire, et donc, il y a des conséquences de cette situation, puisqu'on s'attend à ce moment-là à des mutations qui sont inactivatrices, qui vont donc inactiver le gène, et comme il y a plusieurs façons de casser quelque chose, par contre, il y a peu de façons d'activer, de mettre en marche quelque chose. Eh bien, de la même façon, pour un gène, il y a des tas de façons donc, de l'inactiver. Donc, on s'attendait à un grand nombre de variants pathogènes. Et donc, ça, le corollaire de tout ça, c'est que l'analyse donc, de l'ensemble du gène était nécessaire. Et cette diapositive vous montre là que pour BRCA1, c'est vrai, BRCA2, c'est la structure du gène ici en protéines. Et puis la partie basse du diagramme, c'est autant bâtons sont autant de mutations inactivatrices rapportées, et la taille de la barre est proportionnelle au nombre de fois où elle était rapportée. Et donc en novembre 2024, au niveau national, près de 1300 variants BRCA1 pathogéniques, parce qu'on s'était engagé sur le caractère pathogène du variant, parce qu'ils introduisent notamment un codon stop. Donc, 1300 variants pathogènes différents ont été rapportés dans la base de données FROG, base de données oncogénétiques. Mais le drame, c'est qu'il y avait aussi, voire beaucoup plus, de variants de signification inconnue ou VSI qui étaient identifiés. Et c'est un paradoxe du séquençage de notre génome, c'est que plus on identifie de variants pathogènes, plus on identifie de variants de signification inconnue. Ça ne veut pas dire qu'ils ne servent à rien, tant que c'est un variant, on ne sait pas les interpréter. Probablement, un certain nombre sont pathogènes, un certain nombre sont bénins, et puis, probablement aussi, un certain nombre ont un effet, intermédiaire. On pourra parler de variants avec un effet hypomorphe, et donc ça rend les choses extrêmement complexes. Et donc, en rouge, on a mis là, ce sont les variants pathogènes ou vraisemblablement pathogènes classés donc à ce moment-là en classe 5 pour pathogènes, vraisemblablement pathogènes, en 4. Ils sont utilisables pour le conseil génétique. Par contre, les variantes de signification inconnues, c'est le gris, le grand sac gris de la classe 3, ne peuvent pas être prises en compte aujourd'hui. Et ils font l'objet de recherches très importantes. Et c'est vraiment une difficulté qu'on a, nous, en pratique clinique, parce que souvent, pas tant les biologistes et les généticiens, mais les médecins qui prennent en charge les patients, s'ils voient un rendu de résultat avec quelque chose d'incompréhensible, petit c, 92-4, 92-32, C vers A, ils se disent, ça a l'air rare, donc c'est grave. Et donc, il faut vraiment, ça peut être source de, comment dire, d'attitude incohérente au sein des équipes médicales. Et c'est un article du New York Times que j'avais emprunté d'une jeune femme complètement dépourvue parce que les médecins n'étaient pas d'accord pour l'interprétation du variant, ce qui naturellement avait un effet très important sur la prise en charge. Parce que, vous allez le voir, la problématique, c'est celle de mammectomie de prévention ou pas, ou chirurgie des ovaires de prévention ou pas. Et c'est de l'importance, je dirais, de la mise à jour de la constitution de bases de données de variants qui soient de grande qualité. Et donc il y a des efforts internationaux qui sont faits pour classer les variants BRCA. C'est vrai pour finalement un très grand nombre de gènes pour les maladies génétiques. Je ne lis pas les différents arguments qui nous conduisent à les intégrer dans un modèle multifactoriel et faire un rapport de vraisemblance pour l'effet pathogène versus non pathogène. Mais je voudrais souligner l'importance des collaborations internationales et notamment la Global Alliance for Genomics and Health, GA for GH. Donc voilà, je dirais le panorama est à peu près, planté, le décor est planté. Quelques diapositives sur la pénétrance, on va y arriver, sur les premières études de pénétrance. Et c'est une étude qui aujourd'hui fait vraiment référence, Kuchenbecker, publiée en 2017. Pourquoi ? Parce que c'est une étude prospective, donc elle s'est affranchie des biais de sélection sur la survie. Donc un ensemble de plus de 6000 femmes porteuses d'une mutation variant pathogène BRCA1 et 4000 BRCA2, la moitié étant atteinte d'un premier cancer, l'autre moitié indemne, inclusion 97-2011. Et ce qui est très important, c'est que cette étude a été faite à partir des femmes vues en consultation de génétique. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une histoire familiale ou un âge jeune au diagnostic donc dans ces familles. 96% des cas donc inclus dans des consultations de génétique. Et donc ça a permis, du fait de ces études prospectives, d'estimer le risque cumulé de cancer du sein et de l'ovaire, parce que je ne vous l'ai pas dit, mais BRCA1, il y a un risque associé d'atteinte de l'ovaire, et puis d'autres risques, mais qui sont beaucoup plus faibles, je vous en dirai un mot. Et donc, en bleu, le schéma de gauche, les femmes porteuses d'une altération BRCA1, en orange, BRCA2, et vous voyez que les risques cumulés à 80 ans sont 72% avec un intervalle de confiance relativement étroit, 65-79. Les chiffres sont à peu près similaires pour BRCA2, mais avec davantage de cas un peu plus jeunes pour BRCA1. Et puis à droite, ce sont les risques d'atteinte de l'ovaire, avec un risque ovarien qui est très important pour BRCA1, qui est de l'ordre de 44%, plus faible pour BRCA2. Et là, le risque relatif par rapport à la population, le risque d'ovaire, est très, très élevé. Parce que le risque ovarien dans la population, il est de l'ordre de 1 à 1,5%. Donc, vous voyez, on est là dans des risques extrêmement élevés. Et puis, il y a d'autres risques tumoraux, notamment avec BRCA2 chez les hommes, prostate, mais d'atteinte également du pancréas, là, chez les hommes et les femmes, et également d'atteinte pulmonaire. Ces diapositives pour vous dire qu'une femme qui a fait un premier cancer du sein dans un contexte BRCA1 ou 2 a un risque très important de faire une atteinte de l'autre côté. Le risque est de 2% pour BRCA1, le risque annuel et de 1,5% pour BRCA2, ce qui fait un risque relatif de 2 à 3 par rapport à l'ensemble des femmes qui ont fait un premier cancer du sein. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, au passage, vous pouvez dire, bah oui, mais ce n'est pas des risques aussi élevés que de faire un premier cancer. Et ça, en fait, ça nous dit aussi indirectement que toutes les femmes qui font un cancer du sein, elles ont un risque de faire une atteinte controlatérale, là je suis dans la population générale, qui est plus élevée que de faire un premier cancer du sein. C'est comme si je vous disais, bah, il y a une petite part génétique pour toutes les femmes atteintes de cancer du sein. Je veux passer cette diapositive. Cette diapositive pour vous dire, en une diapo, bah, c'est quoi les enjeux de ces tests génétiques. Et aussi, d'abord, je voudrais souligner que les tests de prédisposition au cancer, et en particulier BRCA1, BRCA2, ils sont vraiment emblématiques de la médecine prédictive. Le terme médecine prédictive n'est pas heureux. Il est dû à... Enfin, il est pas... Je veux quand même rendre hommage à Jean Dossé, qui l'a créé. Mais voilà, le mot prédictif sous-entend une prédiction, une pénétrance très élevée, quand en fait, elle n'est pas forcément si élevée, puis quand il y a des choses à faire. Il n'empêche que l'objectif de la médecine prédictive, c'est d'estimer pour une femme, une personne, soit indemne, le risque qu'elle développe une maladie donnée. Et la légitimité de la médecine prédictive repose sur le fait que savoir doit permettre de prendre des mesures de prévention ou de traitement, et par là de diminuer l'impact de la maladie attendue. Revenons à BRCA2. Eh bien, on va recommander chez les femmes prédisposées un suivi annuel par IRM, mammo, échographie à partir de l'âge de 30 ans ou 25 ans. On fera l'IRM jusqu'à 65 ans. Et puis, c'est toute la problématique de la chirurgie préventive, prophylactique. L'ablation des ovaires et des trompes est recommandée. Aujourd'hui, dès 40 ans, en cas d'altération de BRCA1, elle peut être retardée à 45 ans si BRCA2. Et la chirurgie mammaire de prévention, avec bien sûr proposition de reconstruction, elle n'est pas recommandée, mais elle doit être discutée. Elle peut l'être dès 30 ans ou plus tard, mais je ne dirais pas trop tard. C'est-à-dire qu'une femme qui a 60 ans, un diagnostic de prédisposition BRCA vient d'être identifié, elle n'a rien, eh bien probablement elle est moins à risque que l'ensemble des femmes BRCA1. Donc le bénéfice attendu d'une chirurgie mammaire pour elle serait moindre. Et puis ces tests sont aussi très importants pour la prise en charge d'une femme atteinte d'un premier cancer du sein, parce qu'au moment du diagnostic va se poser pour elle la question des modalités de la chirurgie. Est-ce qu'elle doit être conservatrice ou non, avec l'idée, si elle n'est pas conservatrice, d'être dans la perspective d'une prévention chirurgicale contralatérale. Donc voilà, à grands traits, les grands enjeux de ces tests génétiques. Je n'ai pas parlé de la diffusion de l'information dans la famille, mais ça va avec. Et maintenant, je voudrais revenir à, les BRCA1 et BRCA2, enfin, au rôle de ces protéines. Parce que finalement, je vous ai dit, le clonage positionnel, c'est une démarche agnostique. On ne sait pas à quoi ça sert. Et pendant plus de 3 ans, alors que BRCA1 avait été identifié, on ne savait pas à quoi il servait. Et c'est finalement par des tests cellulaires tous azimuts qu'à un moment, Ralph Scully a montré qu'il y avait une colocalisation de BRCA1 avec RAD51, et RAD51, c'est une recombinase extrêmement conservée au cours de l'évolution des espèces et qui, chez Escherichia coli, s'appelle REC-A. Et puis plus tard, Alain D'Andrea, grand spécialiste de la maladie de Fanconi, c'est Van Kitaraman, pardon, qui a montré, là aussi on faisait des expériences sous azimut, BRCA2. On a invalidé, quand on identifie un gène, d'abord on fait un knock-out chez la souris, puis on voit ce que ça donne. Les souris invalidées pour BRCA2, elles ne survivaient pas, dans la plupart des cas. eh bien, ils ont gardé les caractéristiques chromosomiques des cellules embryonnaires de souris et ils se sont aperçus que la cytogénétique était celle de la maladie de Fanconi, c'est-à-dire des cassures double brin, des structures radiales ou quadriradiales, donc montrant qu'il y avait une anomalie de réparation. Et Alain Andrea travaillait sur la maladie de Fanconi, maladie qui est très hétérogène, c'est-à-dire c'est là, sur le plan génétique, même si c'est une maladie monogénique, un enfant atteint de maladie de Fanconi eh bien, a un seul gène atteint, mais les enfants ont des enfants non apparentés entre eux, en fait ce sont des gènes différents qui sont impliqués. L'un des gènes attendus à partir de groupes de complémentation est FANCD1, eh bien on s'est aperçu que c'était le gène BRCA2. Et ça a été une grande surprise de s'apercevoir que ce gène, très fréquent dans la population générale, est à l'origine, quand il est le siège, de mutations bialéliques, ce qu'on appelle homozygote ou hétérozygote composite, une altération sur chacun des deux gènes, est à l'origine donc d'une maladie récessive grave. Et la maladie de Fanconi, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est une insuffisance, correspond à une insuffisance médulaire. Ces enfants qui ne savent pas, qui ont une aplasie médulaire, il y a une anémie, une aplasie, une insuffisance des globules blancs, des plaquettes, puis il y a d'autres malformations, et il y a un risque ensuite de cancer. Et donc ça a été une grande surprise de s'apercevoir que finalement BRCA1 comme BRCA2 sont des gènes de réparation de l'ADN. Je ne vais pas aller dans le détail de cette diapositive, juste pour vous dire que ces protéines codées par ces gènes ont un rôle clé dans la réparation par recombinaison homologue des cassures double brin de l'ADN. Et donc je reviens sur cette diapositive que je vous ai montrée. Donc ces altérations constitutionnelles, les gènes de réparation, donc ce sont finalement des gènes caretaker qui interviennent dans le processus tumoral parce qu'ils vont amplifier, ils vont augmenter le taux de mutation dans la cellule qui peut devenir tumorale. Mais en même temps, juste, il faut aussi avoir en tête que les cellules qui sont invalidées pour BRCA1 ou 2, elles ont tendance à mourir. Il y a un taux d'apoptose très important dans les cellules invalidées. Et de la même façon, il y a un taux de la chimio et la radiosensibilité des cellules invalidées pour BRCA1 et 2 est extrêmement important. Mais il n'empêche que sur les milliards de cellules dont nous sommes composés, en particulier si c'est au niveau mammaire, de ovarien, du pancréas, il va y avoir immanquablement quelques cellules qui auront un avantage, une mutation avec un avantage sélectif, et en particulier une altération, une mutation du gène TP53. Je continue sur ces gènes de prédisposition. La recherche peut avancer, il peut y avoir des découvertes de rupture, mais c'est souvent une démarche analogique. C'est-à-dire qu'on avance pas à pas. Et quand on s'est aperçu que BRCA1 et BRCA2 étaient des gènes majeurs de la réparation des cassures double brin de l'ADN, eh bien, tous les gènes qui sont impliqués dans le processus, ou qui pouvaient l'être, sont devenus des gènes candidats pour la prédisposition. Et les gènes, notamment de la maladie de Fanconi, dont on avait certains été déjà identifiés ou d'autres ne l'étaient pas, certains gènes plutôt étaient devenus également des candidats pour la prédisposition au cancer du sein. Ce schéma vous montre finalement que BRCA2, c'est une énorme protéine qui stocke ou relargue la petite recombinase RAD51 en rouge. Et BRCA1, qui est en haut en rouge, c'est une espèce de protéine échafaud, scaffold, qui va recruter des tas d'autres protéines autour pour mettre en route la machinerie cellulaire de réparation. Et donc, un certain nombre de protéines, et donc par là de gènes, sont devenus des gènes de prédisposition. Ce schéma que je vais vous remontrer, il donne le panorama des facteurs génétiques de prédisposition au cancer du sein, et les outils avec lesquels ces gènes ont été identifiés et construits. Alors, je ne vous ai pas parlé de la première ligne qui est en gris. Ce sont des situations qu'on appelle syndromiques. mais je ne vous en parle que là, sinon ça nous emmènerait très loin. Il y a certaines situations familiales où on se dit, c'est autre chose. Et notamment, le syndrome de Lieff-Romeni, c'est des situations familiales très graves, avec des familles avec des cancers du sein, des tumeurs cérébrales, des sarcomes, et qui sont liées à des altérations constitutionnelles du gène TP53, qui est le gène le plus fréquemment muté au cours du processus tumoral, puisque justement, il évite l'orientation de la cellule vers l'apoptose. Le gène PTEN, maladie de Coden, CDH1, etc. Je ne vais pas plus avant, ce sont ce qu'on appelle des situations syndromiques de prédisposition. Puis la deuxième ligne, deuxième paragraphe, c'est BRCA2. Et puis ensuite, c'est les autres gènes qui ont été identifiés à partir d'études d'association. C'est des gènes candidats qui étaient, parce que c'était la diapo précédente, on sait que les protéines sont des partenaires de BRCA1 ou BRCA2, et c'est comme ça qu'on trouve PALB2, ATM, BARD1, RAD51C et D, donc autant de gènes différents qu'on a mis en évidence, qu'on a associé à la prédisposition au cancer du sein, parce qu'ils étaient plus fréquemment mutés dans le groupe des cas versus le groupe des témoins. C'est les études d'association. Puis on verra après le dernier point. Et donc cette diapositive vous montre en abscisse, c'est la fréquence allélique, c'est-à-dire, ayez en tête que la fréquence des porteurs, c'est deux fois la fréquence allélique. Et donc vous voyez que il y a certains gènes, notamment les gènes syndromiques, donc PTEN, CDH1, TP53, ce sont des situations extrêmement rares. BRCA1, BRCA2, c'est beaucoup plus fréquent, et je vous donnerai une diapo. Et puis, en ordonnée, eh bien, c'est le risque, en façon logarithmique, le risque de cancer du sein. Donc, c'est une diapositive, je dirais, en deux dimensions, qui vous permet d'avoir une vision, je dirais, à peu près complète du panorama, mais on va y revenir. Cette diapositive, pour vous dire, c'est les études d'association. Donc, le séquençage très haut débit a bouleversé la recherche augmentant les capacités formidables de séquençage. C'est un article donc d'un consortium international important qui a fait donc des études sur un nombre de cas, et donc le nombre de cas est invraisemblable. Près de 50 000 femmes atteintes de cancer du sein, non sélectionnées, c'est important, non sélectionnées pour leur histoire familiale. Ce n'est pas l'étude de Kuchenbecker dont je vous ai parlé avec l'estimation des risques à partir des consultations de génétique. Donc, 50 000 cas, 50 000 témoins. C'est vraiment des situations formidables. Donc, 34 gènes analysés. Et donc, vous voyez ici le odds ratio, on pourrait dire le risque relatif. Eh bien, en rouge, on retrouve bien sûr BRCA1. Donc c'est odds ratio en échelle, donc que vous voyez avec là bien sûr des intervalles de confiance extrêmement étroits. PALB2 qui est un gène impliqué dans la voie cellulaire, PALB2 d'ailleurs ça veut dire partner and link to BRCA2, l'intervalle de confiance est plus large. C'est un gène de prédisposition, mais l'intervalle est plus large. Ben, pourquoi? Parce que les études, malgré des 50 000 cas, 50 000 témoins, les études sont moins puissantes compte tenu de la faible fréquence des mutations de ce gène. Et puis donc on s'est aperçu que il y a aussi des gènes qui ont un risque modéré, plus modéré, comme PALB2, BARD1, et puis des gènes RAD51C et D qui sont également impliqués dans la recombinaison homologue et qui sont aussi des gènes modérés. Ces études, alors un mot sur la prévalence des altérations de BRCA1 et 2 dans la population générale caucasienne. Je ne suis pas là chez les femmes atteintes de cancer du sein. Plusieurs études ont été faites sur des petites séries, et donc je cite, donc on avait BRCA1 et 2, fréquence chez les témoins 1 pour 300, une autre étude 1 pour 147, et puis il y a eu une grande étude américaine où ils ont fait des exomes complets dans les HMO, enfin bref, des systèmes de santé quasi autonomes, 1 sur 200. Mais finalement, je trouve que ce qui est très intéressant, c'est l'étude BICAC dont je vous ai parlé, c'est l'étude consortium. Et en fait, je trouve que c'est intéressant de voir la problématique chez les témoins. Les témoins nous donnent de l'information, et donc vous voyez, pas très bien, mais les contrôles, eh bien BRCA1 sur 50 000 cas, 58 patients témoins, enfin avec porteurs de mutations pathogènes identifiés, c'est-à-dire 1 sur 1000, et puis BRCA2, donc 1 sur 400. Et donc finalement, on est, si on fait la somme BRCA1 ou 2, la probabilité d'identifier dans la population générale est de l'ordre de 1 sur 250 à 1 pour 300. Donc c'est très fréquent. Et aujourd'hui, on se met à faire ce qu'on appelle des exomes, des études génome entier pour des maladies, notamment des maladies génétiques. Dans le cadre du plan France Médecine Génomique, on veut faire un diagnostic. On séquence tout et il y a ce qu'on appelle des données incidentes. Eh bien, les gènes les plus fréquemment mutés, et en ce sens qui conduisent à des propositions de prise en charge, c'est BRCA1 et BRCA2. Maintenant, comment dans la population générale, donc là j'en reviens à la pénétrance, il y a une augmentation du risque de cancer chez les femmes prédisposées, donc chez les femmes prédisposées, que ce soit là BRCA1 ou BRCA2. C'est un travail ancien de Marie-Claire King, et elle a montré qu'il y avait également un effet cohorte. C'est-à-dire que les femmes nées, ici, de façon arbitraire, avant 1940, avaient un risque de cancer du sein qui était deux fois moindre par rapport à celles nées après 1940. Et ça nous dit, l'altération est la même, qu'il y a un impact de l'environnement ou des facteurs liés, je dirais, au mode de vie. Et j'ai rapporté ici, j'ai rappelé, les facteurs, les classiques facteurs de risque de cancer du sein, les premières règles précoces, la ménopause tardive, l'absence de grossesse ou un premier enfant né après 30 ans, l'absence d'allaitement, contraception hormonale, un traitement hormonal de la ménopause, l'alcool, les graisses animales, l'obésité, la faible activité physique et puis peut-être aussi des effets directs de l'environnement et des particules fines. Et puis il y a aussi, on a rapporté la densité mammaire élevée et les lésions mammaires à risque type carcinoblastique in situ ou hyperplasie atypique. Je les ai mis en italique, densité mammaire et lésions mammaires, parce que moi c'est plutôt des éléments, des marqueurs de risque, mais qui sont eux-mêmes peut-être la résultante des facteurs de risque mis plus haut, voire aussi de facteurs génétiques. Probablement la densité mammaire a une part de facteurs génétiques. Donc il est clair, dans le risque de cancer, il y a un impact du mode de vie, en particulier sous l'angle reproductif. L'âge à la première grossesse, vous le savez, dans nos pays occidentaux, a beaucoup reculé, et le nombre d'enfants est également. Et puis il y a des facteurs génétiques. Et là, c'est une observation au départ anecdotique, deux familles identifiées à Curie, avec deux, même altération du gène BRCA1. Dans un cas, c'est sur quatre générations que des cancers du sein, avec d'ailleurs, vous voyez au passage, que l'âge de diagnostic a diminué. Et puis dans l'autre cas, sur deux générations, que des cas de cancer de l'ovaire. Naturellement, dans chacune de ces familles, il ne faut pas attendre le premier cancer du sein ou le premier cancer de l'ovaire. Il faudra être vigilant sur les deux. Et puis, de cette observation, il y a eu un travail qui a été fait en Israël, qui est assez ancien, parce qu'en Israël, il y a dans la population ashkénaze, il y a surtout deux variants pathogènes ou mutations qui sont très, très fréquents. L'un pour BRCA1, l'autre pour BRCA2, et qui reflète ce qu'on appelle des effets fondateurs. Et donc, il a été regardé si le cas index, c'est-à-dire la première personne identifiée dans la famille, était atteinte de cancer du sein, en rouge, quel était à ce moment-là le risque des apparentées porteuses. Eh bien, le risque était essentiellement au sein. C'est la courbe de rouge. Un peu moins à l'ovaire, enfin, il y a quand même un risque d'ovaire. Et à l'inverse, si la première personne testée dans la famille était le point d'entrée, c'était un cas d'ovaire, eh bien le risque des apparentés était surtout à l'ovaire. Il peut y avoir des atteintes du sein, mais le risque était surtout à l'ovaire. Et ça nous dit qu'il y a des facteurs génétiques à distribution, qui interviennent, pas forcément mendéliennes. Juste deux diapos, mais je vais aller très très vite et j'ai presque honte devant Louise Kunitelin-Murcy. C'est des études, mais je voulais juste introduire la notion de ce qu'on appelle le Genome-Wide Association Study, ou GWAS, qui ont beaucoup occupé la recherche quand le séquençage très haut débit n'était pas encore arrivé. Donc on mettait sur une puce d'un centimètre carré des dizaines de milliers de variants génétiques distribués sur l'ensemble du génome, et ces variants étaient souvent des systèmes à deux allèles très simples, et avec les deux allèles étant souvent à peu près représentés. Il pouvait y avoir une variation. Et donc, on a fait ensuite ce qu'on appelle études d'association, un grand nombre de cas, un grand nombre de témoins, avec bien sûr tout repose sur le fait que le fond génétique est le même, et donc ça veut dire aussi que il y a un problème, c'est qu'il faut que vous verrez plus en détail, c'est que on va regarder un certain nombre de variants génétiques de SNP que pour une population donnée. Et donc on a regardé dans ces études deux groupes de cas, groupes de cas, groupes de témoins. On regarde quels sont les variants est-ce qu'il y a des variants pour lesquels un des deux allèles est commun et plus est surreprésenté dans le groupe des cas par rapport au groupe de témoins. Puis après on fait un deuxième tour, on restreint, et puis on fait un troisième tour et on va vers l'identification donc de variants dont l'allèle rare augmente ou diminue le risque de cancer, et ici de cancer du sein, et on va avoir un effet, je dirais, multiplicatif, on est dans une situation d'effet multiplicatif, on est là dans ce que je crois que tu appelais la variabilité étroite, l'héritabilité étroite. Et donc c'est finalement, je reprends cette diapositive du panorama des tests, et c'est SNP dit à risque, enfin c'est SNP, l'un des allèles augmente ou diminue, et donc là ce sont des allèles très fréquents dans la population, relativement fréquents, et puis chaque variant, l'un des deux allèles est associé à une augmentation mais très faible. Voilà. Et ce qui importe, c'est la combinaison de ces SNP qui a pu être mise en évidence. Et donc on a, alors aujourd'hui pour le cancer du sein dans la population caucasienne occidentale, il y a un PRS pour polygénique risk score, que moi j'aimerais plutôt appeler génomique risk score, parce que on n'est pas dans des gènes. La plupart de ces variants de ces SNP sont dans des régions non codantes, voire en dehors des gènes. Mais donc il a pu être montré que il y a un certain nombre de femmes qui ont une combinaison de certains SNP qui vont augmenter de façon importante ou à l'inverse les protéger du risque de cancer du sein. Donc ça, c'est des approches au niveau de la population générale. Et il a secondairement été fait des études dans le cadre d'un consortium qui s'appelle SIMBA, donc c'est l'étude de GWAS chez les femmes présentant une mutation BRCA1 ou BRCA2. Et vous voyez pas très bien, mais en haut à gauche, si le risque cumulé est de 71%, eh bien il peut osciller entre 50 et 83% selon la distribution des PRS, c'est-à-dire la combinaison de ces SNP. Et donc on va maintenant vers des modèles qui intègrent tout ça. Et peut-être que vous pouvez, une autre façon de voir les choses, c'est la distribution des risques de cancer du sein à 5 ans selon les possibles PRS chez des femmes ayant un variant pathogène d'un gène de prédisposition. Alors, vous ne voyez pas là très bien, mais BRCA1, c'est ce qui est en rose, enfin, ou BRCA2 en bleu, c'est le dernier. Et donc, vous voyez que les risques pour une personne donnée, enfin, sont susceptibles. Il y a une distribution finalement gaussienne en fonction donc des PRS et avec des, finalement des risques absolus compris qui peuvent varier entre 5 et 10% dans la population de femmes qui a une altération en bleu donc, pour BRCA2. Et donc l'idée est d'aller vers des estimations individuelles de risque donc en consultation de génétique. Et cette dernière diapositive sur le donc sur la problématique de la pénétrance, c'est que j'ai remis les travaux de Kuchenbecker, donc c'est les estimations de risque dans les études prospectives mais de femmes vues en consultation génétique, et vous voyez que donc les risques c'est BRCA1, prenons que BRCA1 72% avec un intervalle 65-79. Maintenant, si on prend l'étude BICAC, les grands 50 000 cas témoins non sélectionnés pour une histoire familiale, des cas consécutifs de cancer du sein, eh bien, le risque est de 53%, avec un intervalle de confiance qui est entre 42 et 63, qui ne recouvre même pas l'intervalle de confiance de Kuchenbecker. Et puis, là, je ne vous ai pas montré l'étude, mais il y a une étude anglaise, une cohorte de UK Biobank, donc appel à la population anglaise, étude Genotype First Approach in Medicine, plus de 72 000 femmes. Et bien là, alors le risque est à 70 ans, le risque est beaucoup plus faible, 32% en BRCA1, avec un intervalle de confiance 20-45. Donc ça nous dit que, comment dire, il y a encore beaucoup de travail, mais on va y arriver, on a les grandes orientations, en intégrant à la fois les facteurs de risque non génétiques que j'ai évoqués, les facteurs PRS, voire peut-être d'autres, voire il peut y avoir aussi, il ne faut pas hésiter, il peut y avoir une combinaison, ça peut arriver, de plusieurs variants rares. Il y en a un dont je ne vous ai pas parlé, qui est le gène ATM, mais peut-être la combinaison des deux augmente encore les choses. Donc on voit où il faut aller, pour aller vers des estimations individuelles de risque. Je ne sais pas si j'ai encore un peu de temps ou pas. Donc si vous avez, vous, encore un peu de courage, je voudrais vous dire un mot, parce que c'est un breakthrough, là. Tout à l'heure, j'évoquais la recherche analogique qui va pas à pas. Là, ça a été un breakthrough. C'est comment est-ce que la connaissance des mécanismes du rôle de BRCA1 et BRCA2 dans la tumorigénèse, gène donc de réparation de l'ADN, a conduit à une innovation de rupture et à l'identification d'un nouveau traitement dans ces situations. J'ai fait en très court, donc BRCA1 et 2 sont des gènes de réparation de l'ADN, et bien Alan Ashworth, il y a maintenant 20 ans, a proposé que de majorer cette incapacité, ces difficultés plutôt, de réparation de la cellule tumorale invalidée pour BRCA1 et 2, donc à réparer et à survivre, et il a proposé de majorer cette difficulté en bloquant une autre voie de réparation, qui est en l'occurrence le base excision repair, et en mettant ce qu'on appelle un inhibiteur de poly-ADP ribose polymérase ou PARP, donc PARP inhibiteur. Et on est dans ce qu'on appelle un concept de létalité synthétique. Si la cellule a une voie de réparation altérée seulement BRCA1 et 2, elle peut encore réparer, elle est encore là. Mais si on barre une autre voie de réparation, voilà, elle a bien du mal à réparer. Et il a été donc... les PARP inhibiteurs, dont la première spécialité médicale a été l'olaparib. Il y a eu un essai clinique chez les femmes atteintes de cancer de l'ovaire dans un stade important, avancé. Eh bien, le fait, c'est en bas à gauche, de donner un inhibiteur de PARP en violet, eh bien, ça a diminué, ça a augmenté plutôt la survie de 83%, tout au moins la survie sans récidive pendant un certain temps. Donc ça a été vraiment une avancée majeure, comme rarement les oncologues médicaux le voient. Et puis, il a pu être montré, il y a eu d'autres essais, avec d'autres aussi PARP inhibiteurs, dans le cancer du sein, qui a montré l'intérêt, donc dans des formes graves de cancer du sein, de la prescription d'inhibiteurs de PARP. Il y a eu également un essai sur des cancers du pancréas. Et puis, aujourd'hui, on est, c'est BRCA1, BRCA2, mais des essais sont en cours pour l'inactivation d'autres voies, d'autres gènes de la réparation des cassures double brin. Cette diapositive, pour vous dire, je passe encore à autre chose, pour vous dire que, quand j'ai commencé, BRCA1, voilà, je vous ai dit, c'est des altérations qui sont héritées, il y a peu de néomutations. Mais la question se posait, c'est mais est-ce que, quand on regarde dans la tumeur, notamment 4 cancers de l'ovaire, est-ce qu'il peut y avoir des altérations qui sont toutes les deux somatiques? Et donc c'est l'objet de cette étude qui est ancienne, mais qui a été très importante, que l'on doit au TCGA aux États-Unis. 316 carcinomes ovariens de haut grade. Donc le séquençage a été tumoral. On a regardé BRCA1 et BRCA2. Et puis vous voyez, donc, nombre d'altérations identifiées dans la tumeur, c'est 73 sur les 316, c'est-à-dire dans 23% des 4 carcinomes de l'ovaire, on a trouvé une inactivation de BRCA1 ou 2. Et puis après, la question posée, c'était, mais d'où ça vient, cette altération tumorale? Est-ce qu'elle est somatique sur les deux copies, ou est-ce que dans un cas, elle est constitutionnelle? Et il a pu être montré que dans 52 cas, sur les 76, l'altération était, en fait, il y avait une altération constitutionnelle. Et puis dans 21 cas, elle était somatique des deux côtés. Et donc ça veut dire que maintenant, quand on fait une étude tumorale, et quand on étudie un certain gène, et en particulier BRCA1 et BRCA2, du fait de la fréquence des altérations constitutionnelles à l'origine de la situation, ici dans cet exemple, dans 71%, 52 sur 73, 71% des altérations de ces gènes sont en fait constitutionnelles. Et donc, il y a des tests finalement tumoraux qui sont des tests, quasi des tests constitutionnels. Bien sûr, on verra, on regardera la réalité au niveau constitutionnel, mais on est amené finalement à faire des tests chez une femme qui atteint un cancer de l'ovaire dans une forme grave pour trouver un traitement qui lui convienne. En l'occurrence, parce qu'il y a une inactivation de BRCA1 ou 2, on va regarder s'il y a une altération, mais en même temps, on fera quasiment un test constitutionnel. Donc c'est difficile pour elle. Et cette diapositive, qui est une espèce de synthèse, elle est assez facile à lire si vous vous mettez dedans. Là encore, c'est des études formidables. Plus de 45 000 tumeurs ont été étudiées, de 47 localisations tumorales différentes, 56 gènes qui, on le sait, peuvent être altérés de façon constitutionnelle. En vert, pour un gène donné, c'est l'origine constitutionnelle. Donc en haut, on a BRCA1, BRCA2. Là, plus de 75% des cas, toutes localisations confondues, l'origine est constitutionnelle, comme on l'a vu tout à l'heure. Et puis, à l'inverse, TP53, qui est aussi un gène de prédisposition au cancer du sein et à d'autres localisations, et bien là, à l'inverse, l'origine constitutionnelle, c'est au milieu de la figure, est très faible. C'est de l'ordre de 1 pour 500 à 1 pour 1000. Pourquoi? Parce que c'est un gène clé du processus tumoral qui, le plus souvent, est somatique et qui est nécessaire à la transformation d'un très grand nombre de tumeurs. Et donc, cette étude, je le montre souvent aux étudiants, parce qu'elle est très importante pour jongler sur l'origine de ces altérations génétiques. Cette avant-dernière diapositive, pour vous dire que donc, les indications... On peut se dire, elle nous parle de tests de prédisposition, mais quand est-ce qu'on fait des tests? Alors, je ne vais pas aller dans le détail, mais en noir, ce sont les situations où il y a une histoire familiale. Et on va faire un test. D'ailleurs, chez la personne la plus susceptible d'être prédisposée, c'est une femme qui a déjà eu un premier cancer, ou voire un homme. Et donc, il y a des situations familiales évocatrices. Et puis, en vert, ce sont des situations individuelles. Évocatrice. Notamment, aujourd'hui, une femme qui a un cancer du sein avant 41 ans, on doit lui proposer un test de prédisposition. Et ce ne sera pas d'ailleurs un test BRCA1 ou 2, ça va être un panel de gènes. C'est l'ensemble des gènes qui sont dans le panorama que je vous ai montré. c'est tous les hommes atteints de cancer du sein, quel que soit l'âge, c'est toutes les femmes atteintes d'un cancer de l'ovaire de haut grade. Et puis maintenant, il y a également, c'est en rouge, ce qui s'est invité, le théranostic, le traitement s'est invité dans la recherche de prédisposition, c'est des femmes qui ont un cancer du sein avancé, sans amplification de HR2, c'est des femmes qui ont un cancer du sein, ce qu'on appelle triple négatif, c'est-à-dire très indifférencié, et puis c'est quand on a identifié un variant pathogène au niveau tumoral, dans la tumeur, et là on fera plutôt un test ciblé sur l'altération identifiée. Et cette dernière diapositive, on vous dit, oui, panorama des facteurs génétiques, de prédisposition, il s'est complété peu à peu, mais il y a encore beaucoup de questions, de défis à relever. D'abord, c'est la classification des variants de signification inconnue. Je vous ai dit qu'il y en a même plus que de variants pathogènes pour lesquels on s'engage. Il y a l'identification des facteurs modificateurs de risque, qu'ils soient génétiques ou non génétiques, et ça va être particulièrement précieux pour les gènes à effet modéré, comme PALB2, ATM, dont je ne vous ai pas parlé, mais qui revient souvent. Et puis, une autre question, est-ce qu'il y a d'autres gènes de prédisposition ? Probablement, il n'y en a pas vraiment d'autres. Par contre, il y a d'autres modalités d'inactivation, y compris de ces gènes, qui échappent aux techniques actuelles. Tout n'est pas dans la partie codante des gènes. Y a-t-il de nouveaux mécanismes d'inactivation ? Et quels sont les exigences pour poser des thèses dans la population générale? Il y a des personnes qui disent, moi je veux un test BRCA, ou un panel de gènes. Aujourd'hui, on ne le propose pas. De toute façon, on a un système de santé très solidaire qui fait que ce ne serait pas pris en charge. Mais on n'a même pas, les personnes n'ont pas vraiment le droit non plus de le faire comme ça, sauf si elles le font par Internet. Mais après, c'est une autre histoire. Et quelles sont les exigences, néanmoins, pour proposer ces thèses dans la population générale? De mon point de vue, c'est d'aller plus avant dans la classification des variants de signification inconnue et d'être capable d'aller vers une estimation individuelle du risque tumoral, c'est-à-dire l'intégration des facteurs génétiques et non génétiques. Mais dans tous les cas, il y a des prérequis qui, je dirais, sont non négociables sur la conduite des tests. C'est d'abord des tests de qualité, c'est ne pas se tromper dans l'interprétation d'un variant. Chez des personnes qui sont informées des enjeux du test, pour elles, mais y compris pour leur descendance. Et aujourd'hui, le législateur qui adore faire de la médecine avec les lois de bioéthique enjoint à la personne qui fait un test, qui, si elle le fait, test génétique en général, si ce test peut conduire à des mesures de soins ou de prévention pour les apparentés, cette personne a le devoir de les informer, elle engage sa responsabilité civile. Donc c'est très important, c'est des personnes informées, libres de leur choix, c'est la notion de consentement qui est derrière. Je m'interroge toujours sur la liberté du choix quand il y a un intérêt théranostique, parce que ces femmes finalement oscillent entre le besoin de savoir pour elles, pour leur traitement, et puis ensuite le devoir de transmettre à leurs enfants. Et c'est des personnes qui sont accompagnées, essayer de les accompagner, déculpabiliser de la transmission éventuelle d'un trait génétique à leur enfant, et puis des personnes protégées, pas de mesures de discrimination. Voilà, je vous propose de m'arrêter là, j'aurais été un peu plus courte, mais comme ça je vous aurais libérée.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.